Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce soir, je voulais poursuivre là où on avait laissé dimanche, où on avait commencé mercredi. Et je voulais continuer sur un peu, essayer de faire du sens, bâtir sur ce qu'on a établi les deux dernières fois, et essayer de faire du sens de ce qu'un chrétien est par rapport à sa culture environnante. Comment est-ce qu'il va interagir avec la culture environnante? En fait, comment est-ce qu'il va vivre pieusement en Jésus-Christ aujourd'hui? Ça se résume à ça. J'ai posé des fondements pour essayer de faire du sens et peut-être utiliser une approche un peu peut-être différente de ce qu'on est habitué d'entendre pour qu'on apprenne à mettre des lunettes puis à regarder le monde qui nous entoure, la culture qui nous entoure. Non pas avec un regard pour repousser toutes ces choses-là. Non pas pour qu'on embrasse toutes ces choses-là. Non pas pour qu'on se dise, de toute façon, le monde s'en va au diable, mais je suis obligé de vivre dedans. Non pas pour dire, il n'y a rien de bon dans ça. Puis, que se faire? Mais pour dire, Dieu est au-dessus de la culture. Dieu règne. Il n'a pas arrêté de régner, même avec la chute. Dieu est encore Dieu. L'être humain est encore créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, de son Créateur. Et donc, Dieu n'a pas arrêté de rendre témoignage de lui-même parmi les nations, et on l'a vu. Alors, comment est-ce qu'on peut être un croyant, un chrétien, qui marche pieusement en Jésus-Christ, et interagir avec cette culture qui nous entoure? On a vu ensemble que la culture, c'était quoi? C'était un ensemble de croyances sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, un ensemble de valeurs sur ce qui est bon, sur ce qui est mal, un ensemble de goûts sur ce qui est beau, sur ce qui est laid, une manière de... Et ça va se traduire en comportement, en sentiment, en émotion, en réaction, en objet qu'on va créer, en action qu'on va faire, dans les trucs qu'on va ramasser, qu'on va vouloir garder à la maison ou qu'au contraire, on va jeter à la poubelle. Toute cette culture qui nous imprègne va modeler, va avoir un impact sur ce qu'on fait, sur qui on est, sur ce qu'on ressent. Le jeune en Asie, que sa mère prépare un mets de sauterelles ou de différents insectes qu'elle a, qui est allée récolter dans la nature, puis qui va servir ça à table, il va saliver, il va dire « Hey, ma mère, elle cuisine bien », puis tout ça. Prends ce plat-là et serre-le à un petit Québécois. Pas sûr qu'il va avoir la même réaction. Pourtant, c'est de la nourriture les deux. Ça a été préparé avec de l'amour, ça a été préparé pour ses enfants, ça a été préparé dans un contexte particulier, une culture particulière. Mais la mère qui fait les emplettes puis qui achète des sauterelles ou qui achète des vers pour le repas, puis la mère qui va acheter du poulet ou de la dinde, ou au contraire qui veut juste manger des légumes, elle fait ça pour élever ses enfants dans sa culture, dans son contexte. C'est deux expressions culturelles qui va témoigner de toute une manière de vivre, une manière de penser, une manière de croire, une manière de ressentir. Mais la réaction émotive qu'un petit ou qu'une mère a la pensée d'offrir des affaires grouillantes à ses enfants, la réaction émotive, cette réaction, ce sentiment de dégoût, cette émotion-là, c'est culturel. Parce que dans d'autres cultures, ils vont saliver, ils ont hâte de manger ça. Fait que la culture a un impact sur nous autres. Comment est-ce qu'on va interagir avec la culture? Comment est-ce que même... Et le problème, je vous l'ai posé la semaine passée, est-ce qu'un poisson sait s'il est mouillé ou pas? On est tellement dans la culture qu'est-ce qu'on sait que... Qu'est-ce qui est culturel? Puis qu'est-ce qui est... Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies ou dans notre marche avec Dieu qu'on considère saintes, mais que c'est culturel? Puis il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans notre tradition évangélique? Puis on se dit, hey, ça c'est de Dieu, mais est-ce que c'est juste notre tradition, indépendamment de ce que la Bible dit des choses. Et je vous invite, puisque ce que j'ai voulu bâtir les deux dernières semaines, pour moi et pour vous, c'est de dire comment est-ce qu'on va, pas juste un petit peu ce que Pasteur Jean-Sébastien disait en entrée de jeu, pas juste faire puis pas faire, pas juste être au premier plan, de dire « Ah, ben ça c'est mal, ça c'est bien. » Évidemment, il y a des choses qui sont mal, il y a des choses qui sont bien. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Il y en a, ça c'est clair. Mais entre le certainement mal et le certainement bien, il y a comme une zone de gris, puis il y a une zone neutre. Il y a une zone tampon, où est-ce que c'est gris, puis il y a une zone neutre, où est-ce que c'est ni bien ni mal. Puis c'est à nous de voir, puis c'est à nous de rendre ça bien ou mal, avec l'intention qu'on va y apporter. Mais même dans les choses bien, prenez la crainte de l'Éternel, par exemple. Est-ce que c'est bien craindre l'Éternel? Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est bien d'enseigner la crainte de l'Éternel? Oui? Cool. Tournez vos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe 29. Dans Ésaïe, je l'ai sorti tantôt, 29, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Est-ce que craindre l'Éternel, ce n'est qu'une tradition humaine? Non. Pourquoi alors Dieu, par la bouche d'Ésaïe, va dire au peuple, « Hey, la crainte qu'ils ont de moi, c'est juste de la tradition humaine. » Pourquoi? Parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Et ce qui était bon est devenu mal. Souvent, on va citer des versets d'Ésaïe, entre autres. Tournez dans Ésaïe chapitre 1, versets 12 et 13. Ésaïe 1. 12 et 13. Ah, verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne me prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Et souvent, on va se borner à lire le verset 11 et 12 en disant, ben Dieu, c'est pas les sacrifices qui intéressent. Mais le reproche que Dieu faisait à Israël, c'était pas qu'ils apportaient des sacrifices. Ça, c'était la loi de l'Éternel dans Exode, dans Lévitique, dans Deutéronome, dans le Livre des Nombres, c'était requis par le peuple. Dieu n'est pas en train de contredire la loi par la bouche d'Ésaïe. Il est en train de dire, « Hey, vous souillez mes solennités. » Une solennité, c'est quelque chose de solennel, une fête solennelle, quelque chose de sacré. Ce que je vous avais donné de sacré à faire, les sacrifices, les nouvelles lunes, hein, tout ce que la loi, les 613 commandements de la loi de Moïse enseignaient au peuple de faire, commandaient au peuple de faire, ces choses étaient sacrées, ils devaient les faire, en autant que ça s'applique à chacun d'eux, là, mais ils devaient faire ce qui s'appliquait à eux autres. Mais là, Dieu dit ici, il dit non, vous souillez mes solennités, vous souillez ce qui est sacré. Il dit, ça me dégoûte. Et donc, comment est-ce que nous, on va faire, en tant que personne qui voulons marcher pieusement avec Jésus-Christ, pour ne pas arriver et que Dieu nous dise, hey, ce que tu fais pour moi me dégoûte, même si c'est scripturaire, même si c'est biblique, et que c'est même pas culturel. Ce que j'essaie de vous montrer ce soir, c'est que d'un côté, dans la culture environnante, il y a des choses qui sont bien, qui sont mal. C'est pas parce que c'est culturel que c'est nécessairement bien, puis c'est pas parce que c'est culturel que c'est nécessairement mal. Par contre, c'est pas parce que c'est scripturaire que ce qu'on fait est nécessairement bien à cause de l'attitude qu'on peut y apporter et à cause de la manière qu'on va le faire. Vous voyez comment est-ce que c'est pas seulement dans le faire ou ne le pas faire, ou que c'est pas simplement dans le dire de manière rapide, arriver à des conclusions rapides. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps de dire, « Hey, la manière que je vis ma vie chrétienne, selon les Écritures, selon la culture qui m'entoure, selon le monde, est-ce que ça a du sens aux yeux de Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? » Parce que, ultimement, c'est la question qu'on doit poser et c'est la question avec laquelle Dieu va répondre et on espère que sa réponse va être bonne, du moins va être en accord avec ce que j'espère maintenant. Oui, fidèle et serviteur, entre dans la paix de ton maître. Il y en a qui vont rougir devant Dieu de honte. J'espère ne pas être un d'eux. Mais c'est cette réflexion devant Dieu, réflexion face à la culture, réflexion face à la parole qu'on doit avoir. Quand je disais la semaine passée et dimanche, quand je disais que la parole de Dieu est cette autorité qui est au-dessus de toute autorité, hein, pour que, ceux qui aiment les petites phrases latines, c'est la sola scriptura d'une part, puis c'est normans, N-O-R-M-A-N-S, M-O-R-M-A-N-S. Comment il dit ça, là? Non sed normata. C'est norma, N-O-R-M-A, normans, N-O-R-M-A-N-S. Ça veut dire la norme au-dessus de toute norme. Sed normata, ça veut dire qu'il n'est pas régi par une norme. Je m'amuse un petit peu, mais moi, des fois, j'en perds mon latin. Mais, c'est une manière de dire que la sola scriptura, hein, ce que les anciens appelaient aussi la regula fidei, la règle de foi, qui était les Écritures seules, ça voulait pas dire qu'il y avait rien d'autre que les Écritures. Ça serait solo scriptura, pas sola scriptura. Solo scriptura, ça veut dire juste les Écritures sans rien d'autre, sans rien considérer d'autre. C'est pas ça, là. C'est sur la scripture. Ça veut dire que les Écritures sont l'autorité absolue, en d'autres termes. Alors que les traditions, la raison, l'expérience humaine, la révélation naturelle, ça peut être des normes qui sont relatives, mais toujours sous la norme absolue de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, en tant que chrétiens qui voulons marcher pieusement en Jésus-Christ, comment je vais faire du sens de cette norme qui est au-dessus de toute norme? Comment je vais vivre en accord, vivre de toute parole de Dieu, Matthieu 4:4, dans un monde qui, et que Dieu dit, n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde? Là, tu dis, oui, mais Patrice, la culture, c'est pas le monde. Non, justement ça, j'essaie de vous dire. La pensée que la culture, c'est le monde, c'est la première chose qu'on a vue, c'est dimanche, je pense, où est-ce qu'on a dit? Il y en a qui pensent que tout ce qui est de la culture, c'est du monde, puis c'est pas bon, ça doit être rejeté. Tournez dans 1 Jean 2. Tournez dans 1 Jean 2. On va faire du sens de ça. 1 Jean 2, 15. Vous savez, Jean, là, c'est un gars qui, dans ses écrits, de la manière que Dieu l'a utilisé pour écrire, il aime faire ressortir des paradoxes, des idées qui semblent être contradictoires, mais qui ne le sont pas du tout. Et parmi les choses que Dieu va dire par l'apôtre Jean, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Mais là, puis dans Matthieu 5, il dit « Soyez parfaits comme votre Père parfait, cela c'est parfait ». En ce qui concerne l'amour dans le contexte, mais tu veux qu'on aime le monde, tu veux pas qu'on aime pas le monde, c'est quoi tu veux qu'on fasse par rapport au monde? On continue de lire 2.15. Habituellement, on arrête là. Faut pas arrêter. Et ça, c'est important. Souvent, on est habitué d'avoir des petites bribes d'écriture sans prendre le temps de réfléchir au contexte et à la portée pour nous. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. OK. Attends. Donc, tu n'aimes pas le monde. Il dit tout ce qui est dans le monde. Évidemment, là, on comprend qu'en lisant le texte ici, il y a plus de choses dans le monde que ces trois choses-là. Hein? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Parce qu'il y a des chiens, il y a des chats. Il y a plein de choses dans le monde, là. Pas juste ces trois-là. Évidemment, s'il dit ça, car tout ce qui est dans le monde ne vient pas de Dieu. Il est en train de prendre le mot « cosmos », qui est le mot traduit pour « monde » ici, et prendre une des définitions possibles, ou une des sens possibles du mot, et là, il va parler de qu'est-ce qui, dans le monde, est organisé contre Dieu. C'est un des sens du mot « cosmos ». Ce qui, dans le monde, est organisé contre Dieu. Et de qui vient la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout ça, ça ne vient pas du Père. Mais est-ce que, quand c'est écrit « Dieu a tant aimé le monde », ça veut-tu dire qu'il a aimé la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie? Dieu aime-tu ça? Dieu aime-tu le péché? Non, évidemment non. Donc, on voit que, quelque part, il y a des sens différents au mot « monde ». Il faut être capable de dire, ben voilà, dans le contexte, c'est comme ça. Alors, quand on parle de la culture, la crainte de dire, ah ben c'est du monde, tout n'est pas bon. Non. Non. Parce que Dieu, il y a des choses dans la culture qui sont très bonnes. Par exemple, tournez avec moi dans Malachie 1.11. Malachie, chapitre 1. Verset 11. Écoutez, on va lire à partir du verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne sont point agréables. Alors écoutez bien, on l'a vu dans Ésaïe chapitre 1. Hein? Il dit, vous me fatiguez avec vos encens, vos nouvelles lunes, vos ci, vos ça, vous souillez mes solennités. On l'a vu dans Ésaïe 29 quand il dit, la crainte de l'Éternel que vous avez, c'est juste un précepte humain. Toutes ces choses, vous souillez ce que je vous dis, et ça, c'est là, on parle d'une culture, un ensemble de croyances, de valeurs, de goûts, puis d'artefacts, hein, de créations artistiques, tout ça, qui ont été littéralement inspirés par Dieu. Le tabernacle, toutes ces choses-là, là, c'est Dieu qui a mis ça en place. Cette culture-là ne pouvait pas être plus proche du cœur de Dieu pour ce temps-là. Êtes-vous d'accord avec moi? On va lire le verset suivant. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Oh, attends un instant, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis là? Tu es en train de me dire que la culture que tu as inspirée de Dieu, que tu as inspiré avec les offrandes, les rituels, les solennités, les nouvelles lunes, les sabbats, les ci, les ça. Tout ça, c'était souillé, mais que les nations qui connaissaient pas toutes ces choses-là, toute la révélation, à qui n'appartenaient pas les alliances, à qui n'appartenaient pas toutes ces choses-là, eux autres offraient des offrandes, de l'encens à Dieu, et que c'était agréable à Dieu. C'est ça qui est verset 11, c'est ça qui est écrit là. Hein? Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Il vient dire que, juste au verset 10, les offrandes de vos mains ne me sont point agréables, mais les offrandes des nations qui présentent sur les sont pures. Ouais, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui, dans les cultures environnantes, Dieu ne voulait pas que Israël adopte? C'était quoi en particulier? Pourquoi il voulait qu'il soit séparé? Séparé de quoi? Entre autres, l'idolâtrie, hein? Le dérèglement sexuel, tout ce qui vient avec, offrir les enfants en sacrifice. Toutes choses. C'est pour ça que Dieu voulait qu'il se garde des nations, parce qu'il y avait des nations qui étaient profondément idolâtres, profondément souillées par toute cette idolâtrie, par tout ce lien avec les ténèbres, avec les puissances des ténèbres qui étaient personnifiées dans ces idoles-là qu'adoraient ces nations. D'autres nations, par contre, il y en aurait vraiment le nom de Dieu. Le nom de Dieu était grand parmi ces nations-là. Pas celles, là, je ne parle pas de celles qui adoraient les Astarté et les Baals. D'autres nations qui offraient, qui ne connaissaient pas Dieu. Un peu dans Acte 17, quand Paul se promène à Athènes et qu'il voit un autel à un Dieu inconnu et qu'il dit, c'est ce Dieu-là que je viens vous enseigner aujourd'hui. Vous ne le connaissiez pas. Celui que vous ne connaissez pas, je viens vous l'annoncer. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il faut avoir un regard critique et intelligent sur les cultures autour de nous, sur la culture qui nous entoure, pour dire, hey, ça, est-ce que c'est contre Dieu? Est-ce que c'est inimitié contre Dieu? Si c'est contre Dieu ou si c'est inimitié contre nous, de Dieu, ça fait partie du monde et on doit s'en tenir loin. Est-ce que vous comprenez ça? Si c'est neutre, Paul dit juste du monde, comme si j'en disais pas, ou si je peux en profiter, j'en profite. Si c'est gris, ça veut dire qu'il y a du noir dedans pas mal. Parce que du blanc, c'est pas gris d'habitude. Du blanc, c'est noir. Du noir ou du blanc, mais quand du blanc il est rendu gris, c'est parce qu'il y a du noir qui est rentré dedans. Vous comprenez? Donc, on doit faire la part des choses en disant, OK, les cultures qui nous entourent, puis ma culture ou notre culture qui entoure, on doit pouvoir... Bon, c'est tout le monde ça le matin? OK. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire par ces exemples-là dans les Écritures, c'est que c'est pas parce que ce qu'on fait ou ce qu'on est ou le groupe à laquelle on appartient a des institutions, a des pratiques qui sont de Dieu, okay, que si on fait les choses comme on pourrait dire sur le pilote automatique, que c'est à notre avantage. C'est pas à notre avantage. Dieu va dire aux Israélites, on l'a lu tantôt, « Vos prières me fatiguent. » Est-ce que c'est de Dieu prier? Oui, c'est de Dieu prier. Voyez-vous comment est-ce qu'il faut utiliser notre sagesse en disant, OK, ma vie chrétienne, elle m'appartient. Ça veut dire que je suis responsable de vivre ma vie devant Dieu et devant les hommes, non pas avec une sagesse charnelle dans 2 Corinthiens 1:12, mais selon la grâce de Dieu. Ça veut dire que je dois marcher avec Dieu, en accord avec la parole de Dieu, et si, dans la culture qui m'environne, tout ce qui est contre Dieu dans la culture, ben c'est du monde. Je ne touche pas. Tout ce qui n'est pas contre Dieu, hey, je peux en profiter. Tant que ça ne me pousse pas à pécher. Maintenant, ça c'est dans mon interaction avec le monde. Maintenant, quand je parle au non-croyant, à mon ami non-croyant, puis que je parle avec lui, il appartient en partie, il appartient à une culture qui est en partie de Dieu, en partie pas de Dieu. Mais on a un terrain commun. Tout ce qui est de Dieu est à cette culture qui appartient, puis tout ce qui est de Dieu, c'est un même plancher avec moi. On est d'accord là-dessus. Peut-être que lui, dans sa propre culture, parce que c'est sûr qu'il y a la culture générale, c'est comme la culture, c'est comme une moyenne de tout ce que les gens croient, grosso modo. C'est la culture québécoise. Mais si je prends la culture québécoise, qu'est-ce que les Québécois en moyenne croient? Puis je parle à toi, je parle à moi, je parle à toi, je parle à toi. Il va y avoir des variantes, il y a des variations. C'est pas tout le monde qui pense pareil, là. La culture, c'est comme un ensemble de croyances, mais c'est pas tout le monde qui croit les mêmes choses. Dans la culture, au Québec, il y a des gens qui sont évangéliques, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont orthodoxes, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont... Tous ces sous-groupes-là, sous-cultures-là, croient certainement pas les mêmes choses. Ce qui fait que le Québec est varié, multiculturel, on le dit. Il croit plusieurs choses. Mais grosso modo, au Québec, on s'entend pas mal sur quelques petites affaires. C'est la culture québécoise. Dans ça, il y a des sous-cultures. Alors, quand je parle à mon ami non-chrétien, ben, il y a un certain terrain d'entente sur lequel on peut s'entendre. Et ça, on peut bâtir notre relation à partir de ça. Et là, on peut rentrer, si on est les deux, on est d'accord, sur un terrain où est-ce qu'on est moins d'accord. Et là, on rentre dans l'Évangile. Entre autres. Ben, si on était d'accord sur l'Évangile, c'est chrétien. Là, on rentre dans le domaine où est-ce qu'on n'est pas d'accord. Pour l'amener dans une connaissance plus grande du Créateur et du Fils que le Créateur a donné pour son salut. Le Père qui a donné son Fils, Fils de toute éternité, il l'a donné pour le salut des êtres humains. Et quand on embarque sur un terrain commun avec notre ami non-chrétien, bien, éventuellement, c'est pour l'amener dans ce terrain non commun pour dire, hey, ça tente-tu qu'on soit commun aussi dans ça? Dans cette partie-là. Ou est-ce que, hey, le salut t'est offert gratuitement, qu'est-ce que t'en dis? Mais dans le terrain commun, pas de trouble. Si lui, le soir, il s'en va chez eux, puis il fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, à la limite, ça ne me regarde pas. À la limite. Le Saint-Esprit, il ne parle pas de toutes ces affaires-là. Peut-être qu'il sent mal par rapport à la culture. Peut-être que Dieu, il parle de certaines de ces affaires-là, indépendamment de l'Évangile. Mais en ce qui concerne l'Évangile, la seule chose qui importe, la seule chose que le Saint-Esprit parle à son cœur vraiment, qu'on est sûr, c'est qu'il convainc de pécher. Et de pécher pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi, va dire Jésus-Christ. Il va dire ça, Jésus. Le Saint-Esprit convainc de pécher de jugement et de justice. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Alors, quand le Saint-Esprit convainc de pécher un individu, tu es sûr d'au moins une chose, il parle de Jésus-Christ. Les autres domaines, peut-être que Dieu y en parle. Mais je sais une chose, par exemple, Dieu y parle de Jésus-Christ. Donc, on part du terrain commun, common ground, le terrain commun, et on bâtit là-dessus pour l'évangélisation. On peut aussi bâtir là-dessus pour plein de choses, pour qu'ensemble, on peut pas s'entendre sur tout. Il y a des domaines que je m'entendrai jamais. Les domaines qu'on s'entend. Les domaines qu'on s'entend, peux-tu bâtir ensemble sur ça? Par exemple, la mouvance Wiccan, par exemple. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. La mouvance Wiccan, c'est ce qu'on appelle les fameuses sorcières. La mouvance Wiccan, évidemment, pas grand-chose que je suis d'accord avec ça. Vraiment pas. Pourtant, plusieurs chez les Wiccans ont un respect profond de la vie et jusqu'à un certain point sont pro-vie. Y a-t-il moyen qu'on soit d'accord avec les autres sur le pro-vie? Je dis, hey, oui, continue là-dessus. On est d'accord, on partage un terrain commun là-dessus. On peut dialoguer, on peut même aller de l'avant là-dessus. On est d'accord. Ça ne veut pas dire que je participe à tout ce qu'ils font. Non. Ça veut dire que là-dessus, Francis Schaeffer parlait de co-belligérance. On est co-belligérant. Ça veut dire qu'on combat un même combat. Fait que là-dessus, on peut faire une petite... On va combattre ensemble un ennemi commun. Ça ne veut pas dire qu'on va s'associer à tout ce qu'ils font. Je ne commencerai pas à inviter, je n'ai pas moi une week-end prêchée à un rassemblement à l'Église. Non, mais sauf que là-dessus, on tire le même objectif. Bien, gloire à Dieu. On va tirer sur le même côté. Pour le reste, si on se respecte, il n'y a pas de problème. Comprenez-vous? Mais là, je ne parle pas de l'Évangile. Là. Je parle des autres domaines de notre société, parce qu'il faut construire une société. La société, on peut aller de l'avant en tentant de l'améliorer en attendant que le Seigneur revienne. Ben, ça ne sert à rien de laisser tout aller en disant, de toute façon, le Seigneur revient. Oui, mais tu ne sais pas quand le Seigneur revient. De toute façon, Dieu t'a dit, prends soin. Hein, les quatre commissions dans la vie du croyant ou dans la vie de l'être humain. Pour le croyant, tu as la grande commission qui est la principale. C'est amener justement l'Évangile aux non-croyants. Tu as aussi, prendre soin des pauvres, qui est une autre grande commission. Prendre soin de la création, qui est une commission que Dieu a donnée à l'être humain dès sa création. Tu vas prendre soin de la création que je t'ai donnée. Puis tu vas prendre soin de la culture. Tu es supposé être une lumière pour les nations. De donner une direction. Pas être la queue, mais être la tête. Je trouve souvent l'Église est à la tête de la culture. Elle suit la culture. Tu as une mode culturelle, puis 5, 10, 15 ans après, c'est l'Église qui rentre dedans. Je vais vous dire que l'espace quand diminue. Là, dans les années 90, quand je prêchais un message comme celui-ci, il se passait peut-être 15 ans avant, entre quand le monde adoptait une attitude puis que l'Église suivait, 15, 20 ans, peut-être 30 ans. Quand Francis Schaeffer a parlé de ce sujet-là, il pouvait se passer, je ne sais pas moi, 25 ans. Là, aujourd'hui, le monde fait quelque chose, pas longtemps après, l'Église le suit. Là. On est de plus en plus proche au monde. Là, je ne parle pas de la culture, là, je parle du monde. Okay? Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas en disant, on accepte tout sans réfléchir, en disant non, ça c'est pas de Dieu, ça je ne peux pas, même pas être co-belligérant avec toi là-dessus. On ne peut même pas combattre ensemble là-dessus. C'est non. Comprenez-vous où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, ça fait que, en tant que chrétien, on peut observer la culture qui nous entoure. On peut développer des manières de penser, des stratégies pour gagner les gens pour Christ, mais aussi pour parler, pour tenter tant bien que mal, d'améliorer la société qui nous entoure. C'est sûr que c'est temporaire, hein? Mais ça veut dire que parce que Christ revient bientôt, je ne changerai pas ma fenêtre qui est pétée à la maison ou je ne prendrai pas soin de moi. Je vais mourir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah ben, je vais arrêter de prendre les médicaments, je vais arrêter de prendre les vitamines. Pas besoin de m'alimenter comme il faut. Je meurs de toute façon dans 30 ans. Ben, ça n'a pas de bon sens. On va fermer les hôpitaux. De toute façon, tout le monde va mourir éventuellement. On n'a pas besoin de prendre soin des gens. Voyez-vous comment ça n'a aucun sens, cette réflexion-là? Non, c'est pas parce que tu vas mourir dans 30 ans qu'on ne peut pas prendre soin de toi maintenant. Pas parce que le Seigneur revient plus tard et que la Terre va être détruite qu'on ne peut pas prendre soin de la planète en ce moment. D'autant que c'est un mandat que Dieu nous a donné. Combien de personnes j'ai entendu dire, vous les chrétiens évangéliques, vous vous en foutez de l'écologie, de la nature, de la création, puis tout ça. Pourquoi? On devrait être les premiers à dire, « Hey, c'est l'œuvre de mon papa, ça. » Moi, à la maison, j'ai les œuvres de mon père, que mon papa, mon vrai père, mon père physique m'a fait, des toiles, des choses comme ça que mon père a faites. Et je les garde précieusement, j'en prends soin, parce que c'est mon papa qui l'a fait. Pourquoi est-ce que, avec mon papa céleste, quand il a fait toute la création qui est autour de moi, oh, je peux cracher dessus, je peux déchirer, je peux souiller, oh, c'est pas grave, de toute façon, Dieu revient bientôt. Un instant, là. C'est ton papa qui avait ça. Là. Prends-en soin. Prends-en soin. Comprenez? OK. Donc, j'ai été un petit peu partout ce soir, je m'excuse. Mais je voulais qu'on prenne le temps de dire ce que j'ai parlé les deux dernières fois, mercredi passé puis dimanche passé. Ça a vraiment un impact pratique sur comment je peux vivre concrètement, pieusement, en Jésus-Christ, aujourd'hui. Puis c'est pas juste de dire, ah ben, je suis chrétien, je fais partie de la tradition évangélique chrétienne, donc tout ce que je fais, c'est correct. Non, pas nécessairement. Et même si tu pries 3 heures par jour, c'est peut-être que tu fais dit Dieu. Dieu dit, prends un break. Tu parles trop. Hein? Dieu va dire dans Matthieu 6 qui dit ça. Il dit, les païens, ils pensent qu'à force de parler, ils vont être exaucés. Tu sais. Non, ferme-la. mais c'est ça. Jésus prend le temps de dire, non, c'est pas à force de parole. Tant mieux si tu pries 3 heures, puis que ce 3 heures-là, c'est vraiment un temps de qualité avec ton Dieu. Mais si tu n'honores pas la parole dans ces 3 heures-là, ta prière est une abomination, on dit dans le livre des Proverbes. Donc, il ne faut pas avancer sur le pilote automatique dans la vie chrétienne. Il faut, à tout bout de champ, revoir où est-ce qu'on est, revoir où est-ce qu'on s'en va, revoir mes croyances, mes valeurs, mes goûts à la lumière des Écritures, à la lumière de ce que les Écritures enseignent pour m'orienter puis m'assurer que je ne me pense pas meilleur que ceux qui sont autour de moi, comme le pharisien qui a regardé le publicain, oh, je ne suis pas comme ce publicain-là. Hein? Essayer de regarder de haut les gens qui ne sont pas sauvés. Hey! C'est ça que souvent les Israélites faisaient. Mais Dieu dit, hey, il y a des gens qui m'offrent de l'encens et que c'est pur sur les montagnes. Alors que tes offrandes, toi, ils sont impurs, ils ne sont pas acceptables. On ne peut pas regarder les gens de haut, jamais. On est dans le même bateau qui s'appelle la planète Terre. On est dans un. Et gloire à Dieu, on a su accepter une offre gratuite qui nous avait été offerte dans le salut. Et tout ce que je peux faire, c'est offrir ça aux autres autour de moi, mais prendre soin du bateau, tandis que je peux, prendre soin des pauvres, prendre soin de ceux qui m'entourent, puis aller de l'avant en Jésus-Christ. Amen. Fait que Seigneur Dieu, je te rends grâce pour le temps qu'on a eu ce soir. Je te remercie, Seigneur Dieu, que oui, tu nous donnes de l'intelligence. Puis comme dans 1 Chronique 12, papa, je pense au verset 32, tu parles des fils d'Issachar qui connaissaient les temps pour savoir comment on devait agir. Qui connaissaient les temps pour savoir comment ils devaient agir. Comment Israël devait agir. Seigneur Dieu, qu'on puisse être comme ces gens d'Issachar-là, ces fils d'Issachar, à observer les temps, observer ce qui nous entoure pour savoir comment agir, comment vivre pieusement en Jésus-Christ dans un monde qui. Et contre toi, mais dans une culture qui ne l'est pas nécessairement. Donne-nous la sagesse, papa, s'il te plaît. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen.